Alors, maintenant, au sens restreint du terme, le mot évangélique s'applique à des églises qui ont entre elles plusieurs points communs. La première, c'est l'insistance sur l'autorité de la parole de Dieu. Et à ce niveau-là, le mot évangélique a remplacé le terme que l'on employait au siècle dernier et au début du siècle, qui était orthodoxe. On appelait il y avait deux grands courants dans le protestantisme au siècle dernier, nous l'avons vu. Il y avait le courant libéral et il y avait le courant orthodoxe. En 1938, comme nous l'avons vu, il y a eu une tentative de rassembler l'ensemble du protestantisme français dans ce que l'on appelait l'Église réformée de France. Et cette désignation, ces deux courants, libéraux et orthodoxes, en théorie, se sont fondus dans l'Église réformée de France. Dans la pratique, il y a eu résurgence de ces deux courants, et ceci assez vite, parce que l'élément qui a été dominant dans l'Église réformée à partir de 1938 a été, qu'on le veuille ou non, un courant néolibéral, sous l'influence notamment de Karl Barth, du théologien suisse Karl Barth. Et à l'intérieur même de l'Église réformée de France, et a fortiori en dehors de l'Église réformée de France, un certain nombre de gens n'ont pas accepté le néolibéralisme prôné par Karl Barth. Alors, ce refus d'accepter le néolibéralisme a entraîné d'une part des refus d'adhérer à l'Église réformée de France, et c'est ce qui a amené par exemple la création de l'Église réformée évangélique de France, EREI en abrégé, qui se recrute essentiellement dans le midi de la France, les Cévennes, le Languedoc, les régions traditionnellement protestantes, qui représentent un nombre d'églises non négligeables, qui sont en tout point des réformés. Ça veut dire qu'ils baptisent des enfants, ça veut dire qu'ils sont très calvinistes, mais ce sont des gens qui jusqu'à aujourd'hui continuent à faire acte d'allégeance à la confession de foi de La Rochelle. Et ils se veulent les véritables héritiers de la réforme et les véritables réformés. Ils ont jusqu'à aujourd'hui une faculté de théologie qui est implantée à Aix-en-Provence, qui se veut extrêmement fidèle à la pensée de Calvin et qui se veut également fidèle à l'inspiration de l'Écriture sainte. Dans ces dernières années, il y a eu un accord avec l'Église réformée de France, parce que l'Église réformée de France voyait un certain nombre de ces jeunes étudiants en théologie délaisser les facultés de Paris et de Montpellier pour aller faire leurs études à la faculté d'Aix. Et cette influence de la faculté d'Aix, qui dépassait de loin le cadre de l'Église réformée évangélique, a redonné vie à un courant évangélique au sein de l'Église réformée de France. Et un certain nombre de pasteurs, de jeunes pasteurs et de moins jeunes, ont continué, ou plutôt ont repris le flambeau dans ce domaine-là, et se sont mis à prêcher un évangile où il était question de repentance, où il était question de conversion, de retour à Dieu. Éventuellement, certains d'entre eux ont aussi ajouté à cette dimension le baptême du Saint-Esprit, bien que les églises réformées évangéliques indépendantes aient été extrêmement hostiles et sont encore extrêmement hostiles à l'expérience du baptême du Saint-Esprit, justement parce qu'elles se veulent fidèles à la pensée de Calvin dans ce domaine. Mais le courant évangélique dans l'Église réformée de France, donc dans l'Église majoritaire, n'est-ce pas, n'a pas eu ces prétentions-là, et l'essentiel des quelques groupes charismatiques que l'on trouve dans l'Église réformée de France se situe en général dans des groupes qui sont des groupes évangéliques, donc proches de la faculté d'Aix-en-Provence. Cette évolution qui a été particulièrement sensible dans les années 70, en particulier au moment du réveil charismatique, justement, a entraîné à nouveau des problèmes au sein de l'Église réformée que l'on avait cru résorber depuis 1938 et ont entraîné un certain durcissement à l'endroit justement des éléments évangéliques qui composaient l'Église réformée. Un certain nombre d'entre eux ont d'ailleurs tellement été persécutés, on peut le dire, qu'ils ont été amenés à quitter l'ERF, quitter l'Église réformée de France, pour créer des églises autonomes. C'était le cas, par exemple, de Pasteur Schinkel, Ramseger et quelques autres qui étaient dans cette mouvance-là, qui se sont détachés de l'Église réformée pour avoir des œuvres qui étaient autonomes, parce que l'atmosphère pour eux était devenue absolument irrespirable. Alors, la tension était très vive dans les années 70, et il y a quelques années de cela, on est arrivé à un accord entre l'Église réformée et la faculté d'Aix-en-Provence, au terme desquels les jeunes étudiants venant de l'Église réformée terminent leur cycle d'études à Aix et ensuite doivent passer 2 ans de complément de formation à la faculté de Montpellier. Alors, autant dire que ces 2 ans supplémentaires qui leur sont imposés ont en fait pour but de les désintoxiquer, entre guillemets, de l'enseignement évangélique qui leur a été donné à la faculté d'Aix, et d'en faire des bons pasteurs réformés, incrédules, et centrés sur la dimension politique et tout ce qu'on voudra, parce que, d'après les dernières déclarations du président de l'Église réformée, prêcher la conversion est quelque chose d'inacceptable. Prêcher qu'il y ait des gens qui puissent être perdus est quelque chose d'inacceptable. Autrement dit, prêcher l'Évangile est inacceptable. Autrement dit, l'œuvre du Saint-Esprit qui convainc les hommes de justice, de péché et de jugement est inacceptable. Et par conséquent, il faut chasser le Saint-Esprit de l'Église réformée. Je crois que c'est à peu près à cela que ça revient. Alors, de ce fait, on peut dire qu'au sein de l'Église réformée, la situation a tendance, entre guillemets, à se normaliser un petit peu comme la situation dans Tchécoslovaquie en 1968 se normalisait. Alors, voilà en gros, si vous voulez, comment se situe le problème. Alors, à côté de cela, bien sûr, il y a des églises qui, elles, n'ont jamais eu rien à voir avec l'Église réformée de France et qui se trouvent un petit peu situées en dehors de cette problématique-là. Les églises évangéliques, outre justement les courants réformés qui se trouvent à l'intérieur et à l'extérieur de l'Église réformée de France, sont des églises qui, outre justement la dimension évangélique, c'est-à-dire la foi dans l'inspiration de la parole de Dieu et ce qui en découle, c'est-à-dire la conversion, la prédication de la conversion de la nouvelle naissance, je crois que c'est le grand, ce sont les 2 points justement qui permettent de définir les évangéliques des autres, n'est-ce pas ? La foi dans l'autorité de l'Écriture sainte et la prédication de la conversion. La plupart des églises évangéliques qui n'appartiennent pas au courant réformé ont en outre une autre caractéristique commune, la plupart d'entre elles du moins, c'est qu'elles sont des églises de professants, ou en tout cas des églises qui ont tendance à être des églises de professants. Qu'est-ce que c'est qu'une église de professants par rapport à l'église multitudiniste ? C'est que l'église de professants ne reconnaît comme membres de l'église que des adultes qui ont fait profession de foi d'une manière explicite, qui ont donc demandé explicitement d'appartenir à l'Église et qui professent une foi qui est conforme avec justement la déclaration de foi de ces églises-là. Et l'Église multitudiniste est l'Église dans laquelle tous ceux qui sont nés de parents chrétiens sont automatiquement membres de cette Église, qu'ils l'aient demandé ou qu'ils ne l'aient pas demandé. En général, ces églises-là sont pédobaptistes, c'est-à-dire baptisent les enfants, tandis que les églises de professants sont de type baptiste, c'est-à-dire ne baptisent que les adultes. Mais nous allons voir que dans ce domaine-là aussi, il peut y avoir un certain nombre d'exceptions. Ceci est une règle plutôt générale, mais dans la pratique, il peut aussi y avoir un certain nombre d'exceptions. La famille évangélique, qui est la plus représentative en France et la plus nombreuse, c'est la famille baptiste. C'est aussi la plus ancienne. Les baptistes sont nés au XVIIe siècle en Grande-Bretagne et ils ont été essentiellement un phénomène anglo-saxon. Beaucoup ont été persécutés par les églises officielles de Grande-Bretagne, c'est-à-dire l'église presbytérienne d'Écosse et l'église anglicane. Et c'est pourquoi bon nombre des premiers baptistes ont été amenés à traverser l'Atlantique pour s'établir aux États-Unis. Ce qui fait qu'aux États-Unis, les baptistes sont aujourd'hui la confession la plus nombreuse. Et de très loin, n'est-ce pas, les différentes conventions baptistes aux États-Unis forment, toutes groupées, le groupe chrétien le plus nombreux. Il y a d'ailleurs diverses conventions baptistes aux États-Unis. Il y a la Convention du Nord, il y a la Convention du Sud, ça date un peu de la guerre de sécession, et puis ça date aussi du fait que la Convention du Sud, les baptistes du Sud sont des gens qui ont intégré en leur sein évidemment de nombreuses églises noires qui ont un style tout à fait particulier, le style qui est connu au travers de Negro Spirituals et de tout ça. Alors, il peut y avoir d'ailleurs entre ces différentes conventions baptistes, là j'ai cité les deux principales, mais il y en a d'autres qui sont de moins d'importance également, il peut y avoir entre ces différentes conventions baptistes, et à l'intérieur des mêmes conventions baptistes d'ailleurs, d'une église à l'autre, il peut y avoir des divergences assez importantes, et certains baptistes aux États-Unis peuvent à la limite être difficilement appelés évangéliques dans la mesure où il y a dans leur théologie une dérive libérale parfois. Et certains sont très proches de la théologie réformée sur le plan d'inspiration d'écriture, sur le plan d'engagement politique et social, etc., bien qu'ils continuent à baptiser les enfants, à baptiser les adultes, pardon. Mais souvent, il y a dans ces églises-là une dérive justement vers l'église multitudiniste, dans ce sens que on a tendance à baptiser les jeunes d'une manière systématique dès qu'ils arrivent à l'âge de l'adolescence, sans trop s'inquiéter de savoir si leur foi est profonde et si l'expérience qu'ils ont faite avec le Seigneur est véritablement profonde. Il y a dans le baptême des adultes, tel qu'il est pratiqué dans certains groupes baptistes aux États-Unis, un aspect sociologique qu'on retrouve à peu près, par exemple, dans les églises de multitudine en France, que ce soit catholique ou réformée ou luthérienne, par exemple le rite de la confirmation, c'est à peu près la même signification sociologique. Alors, à côté de cela, il y a des églises aux États-Unis qui sont très très ancrées sur la parole de Dieu, même certaines qui sont très très charismatiques. Cela tient aussi à la vision du mouvement baptiste au départ. Les baptistes étaient des gens qui pensaient que l'autorité dans l'église était entre les mains de l'assemblée locale. Et c'est avec eux que s'introduit une nouvelle structure d'église dans le concert du christianisme, les églises dites congrégationalistes. Calvin, par exemple, et les réformateurs, Luther, etc., avaient tempéré l'autorité d'une communauté locale par des synodes, d'où justement ce qu'on appelle le système presbytérien synodal, c'est-à-dire que les assemblées sont autonomes pour ce qui concerne des affaires locales, mais pour ce qui concerne des affaires régionales et nationales, l'autorité est entre les mains de synodes régionaux, puis de synodes nationaux. Les églises baptistes ont rejeté ce système-là, et elles n'acceptent que l'autorité de l'église locale. À la limite, il y a même une négation du ministère pastoral, le pasteur n'étant qu'un ancien parmi d'autres, le premier des anciens en général, qui conduit l'église, mais sans avoir une autorité réelle. Cette autorité, elle est partagée avec justement le conseil des anciens qui se trouve ainsi rassemblé autour d'eux. Les baptistes sont donc des gens qui insistent énormément sur la liberté de l'individu et par conséquent la liberté des communautés locales qui en découlent, et leur système veut qu'aucune autorité extérieure à l'église ne puisse intervenir dans les affaires intérieures d'une église, ce qui fait qu'il y a parfois au sein d'un même mouvement baptiste Il peut y avoir, d'une communauté à l'autre, des divergences extrêmement importantes sur le plan de la doctrine, sur le plan de la pratique et sur le plan de l'organisation intérieure. Bien sûr, pour qu'on ne tombe pas tout de même dans une anarchie totale, dans la plupart des pays, on a tendance aujourd'hui à évoluer vers un système un petit peu synodal quand même. C'est le cas en France, nous allons voir dans un instant, qui fait que, sur le plan de la doctrine en particulier, pour pouvoir être reconnu comme une église baptiste, il faut en général adhérer à une confession de foi minimale, qui est quand même une confession de foi en général très évangélique, et qui implique évidemment le baptême des adultes sur la confession de foi du candidat au baptême. En France, le mouvement baptiste est apparu au lendemain de la guerre de Waterloo, en 1815, avec des soldats anglais qui, après la bataille de Waterloo, étaient en occupation dans le nord de la France. Certains d'entre eux étaient des baptistes, et ils ont rendu témoignage autour d'eux de leur foi aux Français au milieu desquels ils se trouvaient. Et c'est ainsi que, dans la petite ville de Nomain, dans le nord de la France, la première communauté baptiste a vu le jour. À l'époque, elle n'avait pas de pasteur, elle n'était pas structurée, et au départ des soldats anglais qui plus ou moins l'avaient conduite jusqu'alors, elle a fait appel à une mission américaine pour venir conduire justement les pas de cette assemblée naissante. Et c'est ainsi que les missionnaires américains sont venus conduire cette église de Nomain, et à partir d'elle, eh bien, un certain nombre de communautés baptistes se sont créées dans le nord de la France et puis ensuite en Belgique, dans les environs justement de cet endroit-là. Et le mouvement baptiste a connu des moments difficiles. Au départ, en 1882 en particulier, l'aide des Américains, des missions américaines, a été beaucoup plus importante et plusieurs communautés nouvelles ont pu être implantées, certaines dans la capitale et un certain nombre d'entre elles dans le sud de la France. Maintenant, ces communautés étaient des petites communautés et la majorité des baptistes, malgré tout, se recrutaient essentiellement dans le nord de la France où avait pris naissance le mouvement. Les choses ont évolué ainsi jusqu'entre les deux guerres, où s'est posé aussi à l'intérieur des églises baptistes le problème de la théologie libérale. Un certain nombre de pasteurs baptistes ont plus ou moins été aussi touchés par cette théologie libérale, et à la suite d'un congrès particulièrement houleux, parce que les baptistes avaient tous les ans un congrès qui rassemblait l'ensemble des représentants de leur communauté, où on débattait des affaires communes et on mettait au point une stratégie commune, parce qu'encore on s'était rendu compte que l'autonomie totale des communautés n'était pas quelque chose de viable. Et un congrès particulièrement houleux a eu lieu, qui a abouti à une scission entre ceux qui voulaient rester fermement attachés à la doctrine évangélique et ceux qui pensaient que on pouvait s'accommoder d'une certaine évolution sur un certain nombre de points, notamment en ce qui concernait après la Deuxième Guerre mondiale, l'influence de Barthes. Et c'est ainsi qu'existent jusqu'à nos jours en France deux grands mouvements baptistes. Le plus important est la Fédération Baptiste de France, qui a son siège à Paris, 48 rue de Lille, et qui représente en gros les églises qui sont situées plutôt dans la partie nord de la France. Et puis un deuxième mouvement qui est nettement minoritaire, qui s'est peu développé depuis le moment où il s'est séparé de la majorité, qui se nomme l'Association Baptiste de France et qui regroupe des communautés qu'on trouve essentiellement dans l'est de la France et dans le midi de la France. D'ailleurs, le siège de cette association se trouve à Nîmes. Alors, ce qui différencie ces deux mouvements, c'est leur ouverture, essentiellement. L'association baptiste se veut un mouvement, très ferme sur la parole de Dieu, très ferme aussi sur les principes baptistes, si bien que cette association n'a de contact qu'avec des évangéliques purs et durs, si j'ose dire. Si bien que les contacts, par exemple, avec l'association, avec la Fédération protestante, la Fédération baptiste, sont pratiquement inexistants jusqu'à aujourd'hui. L'amertume est restée très forte entre les deux mouvements. Et pour cette raison même, l'association baptiste ne fait pas partie de la Fédération protestante et également est très fermée à tout ce qui concerne le mouvement charismatique. La fédération baptiste, au contraire, est beaucoup plus ouverte, tellement ouverte qu'effectivement on trouve aussi dans son sein un certain nombre de pasteurs qui sont libéraux, Bartien pour le moins, et qui, elle, fait partie de la Fédération protestante, on est même une des composantes importantes, et en même temps qui s'accroît essentiellement depuis quelque temps avec tous les problèmes qui ont surgi à propos des sectes, ou un certain nombre de communautés autonomes pour se mettre à l'abri justement des problèmes que connaissent les sectes actuellement, ont rejoint ou sont en passe de rejoindre la Fédération baptiste. La Fédération baptiste, entre les deux guerres, a connu une autre tempête, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, dans les années 50, a connu une autre tempête qui a failli aussi provoquer une deuxième scission en son sein. Ça a été justement le mouvement du Saint-Esprit. Vous savez qu'avant la Deuxième Guerre mondiale, Douglas Scott, un missionnaire anglais, lui prêchait le baptême du Saint-Esprit et les réalités du Saint-Esprit en France. Et nous allons voir dans un instant, cela a donné la création des Assemblées de Dieu de France. Un certain nombre de pasteurs baptistes ont été touchés par le mouvement de réveil, comme on l'appelait à ce moment-là. Et certains d'entre eux, qui appartenaient tant à la Fédération baptiste qu'à l'Association baptiste, ont été chassés de leur église, précisément parce qu'ils avaient reçu le baptême du Saint-Esprit. Et ils ont fourni, d'ailleurs, aux Assemblées de Dieu, les cadres qui lui ont permis de démarrer. C'est par exemple le cas de Pierre Nicole, qui a été un des premiers pasteurs pentecôtistes, mais qui était un ancien baptiste, qui avait donc la formation biblique très très sérieuse qu'avaient les pasteurs baptistes à cette époque-là. Un autre pasteur baptiste aussi, qui lui venait de l'association et qui a eu aussi un rôle très très important, notamment dans les églises du Midi de la France, c'était André Thomas Bresse, dont vous pouvez d'ailleurs trouver encore des ouvrages très intéressants qui sont diffusés par les Assemblées de Dieu jusqu'à aujourd'hui, et qui ont été chassés de leur église à cause de l'expérience du baptême du Saint-Esprit. Alors, ce que voyons, un certain nombre de leurs confrères n'ont pas osé, à l'époque, aller aussi loin qu'eux dans les choses de l'esprit, mais dans la tourmente de la guerre, leur expérience a été plus ou moins oubliée, et après la guerre, eh bien, ils ont commencé à prêcher les choses de l'esprit dans leurs églises. C'était le cas, par exemple, dans des églises du Nord, en particulier, où plusieurs pasteurs baptistes ont reçu le baptême du Saint-Esprit au lendemain de la guerre, et un puissant réveil du Saint-Esprit a éclaté dans les églises baptistes du nord de la France dans les années 50. Alors évidemment, cela a provoqué une vive émotion au sein de la Fédération baptiste qui était très très fermée à ces choses-là. Et en 1952, a eu lieu un congrès baptiste où on a été à deux doigts de la scission. Et les baptistes traditionnels ont exigé des baptistes charismatiques, on ne les appelait pas charismatiques à l'époque, le mot n'existait pas, on appelait ça les baptistes réveillés, ça avait le don de faire bondir les autres qui disaient « alors vous dites que nous sommes endormis », et c'était une des pommes de discorde aussi, on se battait plus d'ailleurs sur des mots que sur des réalités aussi à ce niveau-là. Et finalement, on a trouvé un modus vivendi où il a été précisé qu'il y aurait, la France était divisée en un certain nombre de territoires, et les charismatiques pouvaient écumer à leur guise le nord de la France, mais ne pas dépasser, je ne sais pas si c'était pas la Somme ou quelque chose comme ça, en évitant de venir sur les plates-bandes des autres, etc. Bon, alors ce compromis quelque peu boiteux a duré, et dure jusqu'à nos jours, si bien que dans la Fédération Baptiste, en fait la ligne en question de la Somme évidemment a été dépassée depuis longtemps, ça n'a pas toujours été sans problème d'ailleurs pour les baptistes traditionnels, mais aujourd'hui on admet qu'il y a deux tendances au sein de la Fédération Baptiste, il y a les baptistes charismatiques et les autres. Alors évidemment, l'accord est ainsi, il n'est pas écrit bien sûr, mais c'est dans les mentalités beaucoup plus que dans sur le papier. Les baptistes charismatiques évitent de parler et de dire qu'ils sont charismatiques devant les autres. Si bien que quand on se présente en particulier devant des autres églises, etc., officiellement, il n'y a pas de charismatique parmi les baptistes. Mais dans la réalité, on sait bien qu'il y en a. On sait bien qu'il y a des tendances. Voilà. Alors, la coexistence est plus ou moins pacifique. Il y a des moments où elle est un petit peu moins, il y a des moments où elle est un petit peu plus, ça dépend un petit peu des circonstances. Il y a aussi ceux qui, finalement, ne sont ni charismatiques, ni contre les charismes. Il y a, entre les deux tendances, des gens qui ont des positions très fermes d'un côté comme de l'autre. Vous avez tout un magma qui a un petit peu tendance à prendre un petit peu dans les deux râteliers ce qui leur convient. Alors, la Fédération Baptiste a son siège, je disais, à Paris. Elle édite un journal qui se nomme Croire et Servir, qui est diffusé sur une très grande échelle par ailleurs. À côté de l'association et de la Fédération Baptiste, il existe également des églises baptistes indépendantes. Ces églises baptistes indépendantes sont groupées, enfin étaient groupées jusqu'à ces derniers temps, autour de l'église baptiste du Tabernacle à Paris, qui s'était séparée au lendemain de la guerre, ou entre les deux guerres, je ne me souviens plus très bien, de la Fédération Baptiste officielle pour d'obscures histoires de personnes, je crois. Et aux dernières nouvelles, cette dissidence est plus ou moins en train de se résorber très très habilement. L'église du Tabernacle est toujours une église qui est indépendante, mais le pasteur qui la conduit actuellement, lui est membre de la Fédération Baptiste. Alors vous voyez, petit à petit, à pas de loup, à pas de feutré, tout va rentrer dans l'ordre d'ici quelques années, certainement que cette église réintégrera aussi la fédération baptiste. À côté de cela, il y a les baptistes ont donné naissance à un certain nombre d'instituts bibliques. En effet, les baptistes ont eu un petit peu du mal à former leurs hommes. La plupart d'entre eux allaient dans les églises, dans les facultés de théologie réformée et luthérienne, mais évidemment, ce n'était pas toujours extraordinaire, et certains en ressortaient plutôt déformés qu'autre chose par la théologie qui était dispensée, et c'est la raison pour laquelle un certain nombre de baptistes ont pensé, d'églises locales, ont pensé qu'elles ne devaient pas envoyer leur pasteur dans ces facultés de théologie-là, et certaines ont été amenées à créer des instituts bibliques. En fait, les instituts bibliques étaient des centres de formation qui ont été créés dans des périodes de réveil, essentiellement dans des périodes de réveil. Et au départ, pas tellement d'ailleurs pour former des pasteurs, mais parce que dans ces moments de réveil qu'il y avait dans les églises évangéliques, des laïcs, comme on disait à ce moment-là, éprouvaient le besoin d'aller plus loin dans l'étude de la parole de Dieu. Et notamment des jeunes qui avaient été convertis dans ces moments de réveil, qui voulaient faire quelque chose dans l'église, mais qui ne se sentaient pas appelés au ministère pastoral, eh bien, ont demandé à recevoir, dans un certain nombre de centres spécialement prévus à cet effet, une formation rapide d'un an, deux ans maximum, qui leur permettrait d'avoir une connaissance de l'Écriture sainte, plus poussée que ce qu'ils donnaient dans la plupart des églises, et en même temps d'être ainsi disponibles pour le service de Dieu. Et c'est alors que se sont créés justement les mouvements des instituts bibliques. Dans la région parisienne, il y en a eu essentiellement deux. L'Institut biblique de la Morlaix, qui se trouve à côté de Chantilly, et l'Institut biblique de Nogent-sur-Marne. Alors, très vite, ces instituts bibliques ont plus ou moins évolué vers des centres de formation pour futurs pasteurs. En effet, certains se sont dit, je le disais il y a un instant, que les facultés de théologie officielles n'étaient pas bonnes pour la formation des futurs pasteurs des églises évangéliques, et beaucoup de jeunes qui étaient dans les instituts bibliques, se sont sentis soudain un appel pour le pastorat. Alors, les instituts bibliques ont été amenés à renforcer un petit peu leur l'enseignement qu'on donnait pour justement arriver au niveau de la formation pastorale. Alors, ce qui différenciait justement aussi l'Institut biblique de la faculté de théologie, c'est que la faculté de théologie exigeait le baccalauréat. Les instituts bibliques n'avaient pas cette exigence. Donc, il pouvait y avoir des pasteurs qui n'avaient pas le niveau d'études universitaires qui était requis pour les facultés de théologie. Ce qui était évidemment tout à fait logique et tout à fait biblique, car nulle part dans l'Épître aux Saints, nous voyons que Pierre avait son baccalauréat ou qu'il avait un niveau universitaire, pas plus que qu'André ou que les autres, n'est-ce pas ? C'était vraiment une déformation totale que d'exiger des pasteurs qu'ils soient des universitaires. Des centres d'où il y avait une intense évangélisation qui se faisait. Car on pensait que les jeunes qui étaient là en formation ne devaient pas simplement être des gens qui étaient là pour étudier, intellectuellement, mais qu'il y avait aussi une formation pratique qui s'imposait. Et cette formation pratique, outre les problèmes d'une église qu'ils pouvaient avoir à affronter, en général, ils allaient faire des stages dans les églises des environs de l'Institut, mais également, il devait y avoir une formation pratique sur le plan d'évangélisation. Et les étudiants qui étaient en formation dans ces instituts bibliques étaient fortement encouragés à entreprendre, soit pendant l'année d'études, soit pendant les vacances scolaires, des efforts d'évangélisation particuliers. Certains n'hésitaient pas, par exemple, à aller dans les cafés, monter sur la table avec une Bible dans la main et porter l'évangile. C'était très courant au siècle dernier, au début du siècle, jusque dans les années 50, par exemple, ça se faisait. On connaît par exemple le plus célèbre de ces prédicateurs populaires, qu'on appelait le Pernic, qui était connu à Lille comme comme pas deux, n'est-ce pas, dans tous les milieux des ivrognes, des cafés, des lieux mal famés, etc. Et là, eh bien, il n'hésitait pas à entrer dans les cafés, il montait sur une chaise, et puis là, il prêchait l'évangile à tous les clients qui étaient là. Évidemment, ça ne se conserverait plus du tout aujourd'hui. Celui qui s'amuserait à faire ce genre de choses se fait sortir rapidement, mais à cette époque-là, c'était admis, ça posait moins de problèmes. Alors, forcément, il y avait à la suite de cela des gens qui se convertissaient. Et ces gens, eh bien, avaient soif d'aller plus loin, et comme c'était des étudiants d'institut public qui leur avaient prêché l'évangile, eh bien, ils assistaient aux réunions qui se tenaient à l'institut public dans l'année scolaire, régulièrement. Il y avait des cultes le dimanche, il y avait des réunions en semaine, des réunions de prière, des réunions d'évangélisation, etc. Et si bien qu'autour de l'institut biblique se créait une église en général. L'institut biblique lui-même se voulait interdénominationnel, donc l'église en question ne se rattachait pas à une union d'églises existante. Et c'est ainsi que, autour des instituts bibliques, se créaient finalement de nouvelles unions d'églises. Par exemple, France Mission, avec laquelle nous avons des mailles à partir actuellement, est issue justement du travail de l'Institut biblique de Nogent-sur-Marne. Alors, en Suisse, vous avez un autre institut biblique qui est aussi assez célèbre, c'est l'Institut biblique d'Emmaüs, qui a été pendant longtemps, qui est encore d'une certaine manière, bien qu'un peu moins, un grand centre de la diffusion de la pensée évangélique de langue française. Et puis dernièrement, les églises évangéliques ont été amenées à créer aussi une faculté de théologie. Là aussi, la tentation de l'intellectualisme les a gagnés, et le fait que leur pasteur qui était sorti des instituts bibliques était méprisé par les pasteurs réformés luthériens qui étaient sortis, eux, des facultés de théologie, les a amenés à vouloir les égaler sur ce terrain-là. D'où la création, au début des années 60, de la faculté évangélique de Vaux-sur-Seine, qui, hélas, connaît aussi, finalement, l'évolution de toutes les facultés de théologie, une dérive aussi libérale sur, par exemple, la théologie de l'histoire des styles, des formes littéraires, et puis dernièrement la négation du millénium, l'amillénarisme. Donc il y a cette dérive extrêmement préoccupante, extrêmement grave, qui se produit actuellement dans les milieux évangéliques, à partir de la faculté dite évangélique de Vaux-sur-Seine. À côté des églises baptistes, il y a un autre groupe évangélique très important, ce sont les églises méthodistes. Les églises méthodistes sont nées d'un mouvement de réveil qui est apparu dans l'église anglicane au XVIIIe siècle, sous l'influence d'un homme qui fut un apôtre au moins du Saint-Esprit, un homme remarquable, Wesley, 1703-1791. Et cet homme qui se voulait anglican, qui est resté anglican toute sa vie, a été persécuté par l'église anglicane officielle qu'il voulait réveiller. Et après sa mort, survenue en 1791, ses disciples ont été chassés de l'église anglicane. Wesley était un évangélique qui prêchait donc l'autorité de l'Écriture sainte, la conversion, mais aussi qui prêchait la sanctification. La sanctification qui n'était pas... Il avait sur ce plan-là des vues un peu particulières que nous ne pouvons pas suivre totalement, mais Wesley s'était rendu compte que l'Écriture sainte parlait, outre de la conversion, d'une deuxième expérience du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui d'abord amenait les gens à naître de nouveau, puis quand ils lisaient le livre des Actes, ils se rendaient compte qu'il était question du baptême du Saint-Esprit. Et Wesley a été le premier à se poser la question de chercher à comprendre et à recevoir ce qu'était cette expérience du baptême du Saint-Esprit. À l'époque, évidemment, il n'avait pas compris qu'il s'agissait de ce revêtement de puissance qui permettait justement d'accéder au domaine des charismes, mais pour lui, il avait pensé que, en fait, cette expérience était une expérience intérieure qui donnait à celui qui la recevait par la foi la possibilité de vivre une vie sainte. Par conséquent, il exhortait ceux qui se convertissaient à rechercher une deuxième expérience qu'il appelait l'expérience de l'entière sanctification. Évidemment, cette doctrine avait quelque chose d'un peu dangereux, c'est que certains qui pensaient pouvoir avoir fait cette expérience s'imaginaient ensuite qu'ils étaient devenus parfaits, et il y avait parfois des outrances très dommageables dans ce domaine-là. Wesley lui-même n'a jamais enseigné rien de semblable, mais certains de ses disciples ont poussé beaucoup trop loin, évidemment, ce qu'il lui-même avait dit. Et Wesley a enseigné, entre autres, qu'après avoir été ainsi sanctifié, on pouvait malgré tout encore tomber dans le péché si l'on ne veillait pas. Et il exhortait ceux qui avaient fait cette expérience à veiller très attentivement sur leur vie, sur leur conduite, sur leur manière de se comporter, d'où justement le nom de méthodisme qui a été donné à ce mouvement, parce qu'il s'agissait de mener une vie qui soit régie par une méthode très très rigide, très très stricte, justement pour éviter de retomber dans le péché, d'où l'expérience de sanctification nous avait tiré. Alors, le méthodisme est venu en France en 1891 par l'intermédiaire d'un missionnaire anglais qui s'appelait Charles Cook. Et il n'a jamais eu grand succès en France. D'abord parce que l'Église réformée ne voyait pas tellement d'un bon œil. Il a eu plus de succès en Suisse, par contre, en Suisse romande en particulier. Et les églises méthodistes suisses et françaises ont été liées par des liens organiques très très importants jusqu'en 1940, où un certain nombre d'églises méthodistes se sont rattachées à l'église réformée. Pardon, 1938 déjà, certaines églises se sont méthodistes, la plupart des églises méthodistes de France, en fin de compte, se sont rattachées à l'église réformée, si bien qu'aujourd'hui, on peut dire que le méthodisme a pratiquement disparu de France, à la suite justement de son intégration par l'Église réformée qui a tout, évidemment, tout nivelé. Par contre, à partir de 1940, voyant qu'ils avaient fait une faute énorme en acceptant la fusion avec l'Église réformée, un certain nombre de méthodistes ont réagi et des églises sont restées autonomes et d'autres ont été créées. Mais les églises méthodistes sont très très peu nombreuses en France, on les compte essentiellement dans le midi de la France. Alors, je vous ai parlé tout à l'heure des églises réformées évangéliques. Je précise simplement qu'elles ont actuellement 60 lieux de culte en France et 20 000 membres environ. À côté de ces églises réformées évangéliques, on trouve une autre union d'églises aussi évangéliques, ce sont les églises libres, les églises dites libres. Pourquoi les appelle-t-on libres et quelles sont-elles? Les églises libres sont en fait au départ des églises réformées. Mais des églises réformées qui ont vécu très très douloureusement le concordat qui a été imposé au protestantisme français par Napoléon Bonaparte. Vous savez que Napoléon Bonaparte a officialisé un certain nombre de cultes en France, l'église catholique bien entendu, le judaïsme qu'il a organisé en consistoire, et puis le protestantisme. Et le concordat prévoyait que l'exercice du culte sur le territoire français était totalement libre pour les églises concordataires. Elles pouvaient s'implanter où elles le voulaient, elles pouvaient avoir des lieux de culte, construire, avoir possédé des biens, recevoir des legs et tout ça. Et ensuite, elles étaient, leur pasteur, leur ministre, étaient payés par l'État. Donc c'était des églises d'État. Et au sein du protestantisme, un certain nombre de pasteurs et de fidèles se sont rendus compte qu'il y avait là quelque chose de tout à fait anormal, de tout à fait préjudiciable pour l'Église, car en fait, l'État qui payait les pasteurs avait par ce moyen-là un moyen de contrôle total sur les Églises. Et les Églises étaient liées à l'État, les Églises étaient inféodées à l'État. D'ailleurs, tous les pouvoirs totalitaires font ça, par exemple aujourd'hui dans les pays de l'Est, eh bien, les Églises officielles voient leurs ministres rétribués par l'État. Un moyen de les contrôler. Alors, un certain nombre de chrétiens ont senti qu'il s'agissait là d'une situation absolument intolérable, et en 1849, un certain nombre d'églises, de paroisses de l'église réformée, ont quitté l'église réformée pour se constituer en union des églises réformées libres. Libres justement parce que libres par rapport à l'État. Et elles ont décidé de prendre en charge elles-mêmes financièrement tout ce qui était rétribution des pasteurs, achat des lieux de culte, entretien des lieux de culte, etc., etc. En même temps, ces églises insistaient sur la séparation entre l'Église et le monde. Elles trouvaient que cette union entre l'Église et l'État entraînait aussi une union entre l'Église et le monde, et que l'Église de leur temps était une Église mondanisée. Et c'est pourquoi, pour eux, la rupture avec l'État aller de pair avec une rupture avec le monde et la sainteté de vie qui allait de pair avec cette séparation d'avec le monde. C'était donc des églises qui ont connu une orientation évangélique très forte à partir de ce moment-là et qui, au moment justement de la querelle entre libéraux et orthodoxes, ont pris une position orthodoxe très forte, excommuniant sans pitié tous ceux qui professaient le libéralisme. Et cette évolution a entraîné aussi une autre conséquence, c'est que ces églises ont évolué aussi vers une forme d'église de professants. Au départ, c'était des églises réformées, donc églises multitudinistes, mais petit à petit, elles ont évolué vers une forme d'église de confessants. Alors, elles n'ont pas remis en question le baptême des enfants, c'est en cela que tout à l'heure je disais qu'il y a parmi les églises évangéliques qui ne sont pas dans le courant réformé, des églises qui, bien qu'étant des églises de professants, baptisent encore les enfants. Mais elles exigent, n'est-ce pas, que pour être reconnu membre officiel de l'Église, l'enfant qui a été celui qui a été le baptisé enfant, arrivé à l'âge adulte, fasse une profession de foi de conversion. Et pour être reconnu dans l'Église, il doit donner un témoignage public de sa foi, de sa conversion, de son expérience de conversion, pour être accepté comme membre de l'Église. Bien entendu, cette évolution a conduit aussi de plus en plus de membres de l'église, des églises libres à refuser le baptême des enfants et à demander à être baptisés à l'âge adulte au moment de leur confession de foi. Si bien que la norme dans les églises libres aujourd'hui tente à devenir le baptême des adultes et le baptême des enfants reste l'exception pour ceux qui sentimentalement sont encore attachés à ce genre de choses. Actuellement, les églises libres sont aussi implantées essentiellement dans le midi de la France. Elles ont 25 lieux de culte. La majorité d'entre eux se trouvent dans la région de l'Ardèche. Bien sûr, depuis 1905, la séparation de l'Église et de l'État, la différence entre ce qui faisait leur spécificité, c'est-à-dire la l'aspect non concordataire ne joue plus de la même manière. Maintenant, toujours dans le courant multitudiniste, il faut citer l'Église luthérienne libre. L'Église luthérienne libre est issue d'un réveil dogmatique, tout à fait étonnant, au XIXe siècle en Alsace, sous l'influence d'un certain Horming, qui a été taxé d'être un intégriste luthérien, et à cause de cet intégrisme, il a été chassé de son église, chassé de l'église luthérienne, parce qu'il a refusé justement l'évolution libérale qui se manifestait à l'époque au sein de l'église luthérienne. Alors, il a fondé l'église luthérienne libre, qui elle aussi évidemment était non concordataire, c'est-à-dire qu'elle se mettait en dehors de l'église officielle, ce n'était pas un choix, c'était une obligation pour ceux qui le concernaient. Et un certain nombre de ces gens-là ont émigré aux États-Unis. Et là, ils ont créé un certain nombre d'églises, notamment dans l'État du Missouri, aux États-Unis. Et là, ils ont formé un groupe d'églises très important, enfin relativement important, qui sont très très fermes sur la parole de Dieu, qui sont aussi à cause de cela, entre autres choses, assez fermés aux autres, notamment aux autres luthériens, et même à tous ceux qui ne sont pas considérés par eux comme suffisamment orthodoxes. Et chose tout à fait intéressante, depuis quelques années, ces luthériens américains évangéliques sont venus implanter des lieux de culte en France, notamment dans l'Ouest protestant. Dans le Poitou, par exemple, où je suis originaire, il y a plusieurs églises luthériennes qui se sont construites sur les ruines d'églises réformées, où les fidèles étaient totalement désorientés par l'évolution de l'église réformée, qui soudain ont vu arriver des gens qui étaient proches sur le plan structure d'église, car entre église luthérienne et réformée, finalement, il n'y a pas une très très grande différence, mais qui leur prêchaient à nouveau un évangile clair, un évangile avec des certitudes et non plus des interrogations et des doutes et peut-être et tout ce qui finalement les avait déboussolés, désorientés. Si bien qu'il y a dans l'Ouest actuellement 13 lieux de culte luthériens évangéliques avec des émissions radio. Les Américains ont des moyens. Ils ont leurs propres émissions de radio qui s'appellent La Voix de Christ aux Nations. Et ils ont des missionnaires qui se succèdent en France pour tenter justement de faire une œuvre à ce niveau-là. Ensuite, il faut citer les assemblées évangéliques, ou encore les assemblées de frères, comme on les appelle. Ce sont des églises qui sont issues d'un réveil qui a eu lieu au milieu du siècle dernier, à Plymouth, en Angleterre. Et ces églises se sont structurées à la suite du réveil, en dehors des églises officielles, sur le modèle d'assemblée. Ils ne voulaient pas employer le mot église, mais ils voulaient employer un mot biblique, assemblée. Alors c'était des gens qui étaient très très congrégationalistes. C'était des gens qui n'acceptaient aucune autorité, si ce n'est celle de l'église locale, et qui n'acceptaient même pas le ministère. Pour eux, leur doctrine, c'était celle du sacerdoce universel. Chaque croyant qui avait fait profession de foi, qui était baptisé, le baptême des adultes, n'est-ce pas, avait un ministère et pouvait enseigner par conséquent. Et c'est ainsi que dans les assemblées de frères, un petit peu comme dans l'église du IVe siècle dont nous parlons ensemble la semaine dernière, vous pouvez avoir facilement 5, 6, 7, 10, 12, 15 prédicateurs qui se lèvent dans un même culte pour prêcher. Pratiquement tout le monde se lève pour prêcher. Alors, justement, là, il y a eu une scission en France. En effet, ce réveil de Plymouth a été amené en France en 1857 par un certain John Nelson Darby qui a non seulement prêché ce réveil en France, mais également en Suisse. Et alors, ces églises qui en principe étaient très indépendantes, se sont trouvés avoir affaire ici à un véritable pape. Darby était un homme qui avait une autorité de fait, et Darby aussi avait un certain nombre de doctrines qui lui étaient très particulières et très propres. Outre l'excellent travail qu'il a fait de son temps en traduisant en français la Bible, version qui a encore son intérêt, bien qu'étant dépassée par bien des aspects, bien sûr. Mais Darby a été aussi le premier qui a conçu, si je peux dire, une doctrine du retour de Jésus-Christ qui était cohérente. La doctrine du retour de Jésus-Christ, évidemment, a été pratiquement oubliée depuis les origines du christianisme. C'était un des articles de foi, il reviendra pour juger les vivants et les morts, mais quand, des milliers d'années, dans des millions d'années peut-être, n'est-ce pas, ça n'empêchait personne de dormir. Et c'est alors qu'au XIXe siècle, évidemment aux États-Unis, vous le savez, un certain nombre de mouvements ont dit, eh bien tiens, on a oublié là, les églises chrétiennes ont oublié une des vérités essentielles. Et ça a souvent d'ailleurs donné des groupes apocalyptiques hérétiques et sectaires qui se sont détachés des églises officielles pour devenir des sectes. Ça a été par exemple le cas des adventistes, d'où sont sortis ensuite les étudiants de la Bible, et d'où sont sortis enfin les témoins de Jéhovah. Les mormons étaient aussi d'une certaine manière une secte à caractère apocalyptique. Et alors les grandes églises, plutôt que de se dire tiens, il y aurait peut-être quelque chose à étudier là, ont rejeté tout ça sans aucune nuance. Tout ce qui avait trait au retour de Jésus-Christ, pour eux, était semence d'hérésie et était rejeté. Darby a eu cette intelligence, et il faut lui rendre cet hommage et cette justice, d'être le premier à s'être dit, eh bien dans le fond, ces gens-là ont tort, bien entendu, parce qu'ils poussent trop loin cette doctrine-là, mais par contre, il est vrai que les grandes églises ont quelque chose à redécouvrir là, et il y a une interpellation qu'il faut prendre au sérieux. Et Darby a été le premier qui s'est penché d'une manière biblique et équilibrée sur la question du retour de Jésus-Christ, et qui a élaboré un système qui a cours aujourd'hui dans la plupart des églises évangéliques. À quelques modifications près, évidemment. C'est un système que nous n'acceptons pas entièrement, notamment, il y a, vous savez, cette doctrine des 70 semaines, il parle des 70 semaines de Daniel, 69 semaines, qui représentent le temps depuis la reconstruction de Jérusalem par Néhémie jusqu'à la mort de Jésus. Et puis ensuite, il y a une parenthèse, dit Darby. Il y a une parenthèse qui commence à la mort de Jésus, qui est la parenthèse du temps de l'Église. Et le temps de l'Église s'insère là-dedans, et puis ensuite viendra un moment où l'Église sera enlevée. Et le cours des événements qu'avait entrevu Daniel, qui s'est arrêté avec la mort de Jésus, reprendra au moment de l'enlèvement de l'Église, et ce sera la 70e semaine qui commencera, donc de 7 ans, qui verra le règne de l'Antichrist divisé en deux parties au début de cette semaine d'année. L'Antichrist fera alliance avec Israël ressuscité. D'ailleurs, Darby a eu aussi cette justice à ce moment-là de croire et d'annoncer, d'enseigner qu'Israël ressusciterait en tant que nation. À l'époque, c'était une utopie absolument impensable, mais bibliquement, il a cru que c'était ainsi que les choses se feraient. Et alors, il a annoncé qu'après l'enlèvement d'Église, eh bien, l'Antichrist ferait alliance avec Israël, puis qu'ensuite, après 3 ans et demi, eh bien, il romprait son alliance avec Israël et se persécuterait Israël, et puis ce serait Armageddon, donc le retour de Jésus avec l'Église qui aurait été enlevée au début de la semaine. Évidemment, à partir de là, Darby a fait tout un calendrier très précis, n'est-ce pas, des prophéties, presque on peut suivre au jour le jour les prophéties qui s'accomplissent. Bon, c'est un peu excessif. Cette histoire des 70 semaines, de la parenthèse de l'Église, etc., est aussi un petit peu discutable, n'est-ce pas? Mais à l'époque, c'était évidemment par rapport à toutes les élucubrations qui se disaient au niveau des témoins de Jéhovah et gens semblables, c'était quelque chose de tout à fait intéressant, de tout à fait nouveau, et encore une fois, dans la plupart des milieux évangéliques aujourd'hui, c'est grosso modo la théorie qui est encore professée, y compris dans les milieux pentecôtistes, par exemple. Si vous vous référez à des ouvrages sur le retour de Jésus, par exemple de René Pache, qui a été directeur de l'Institut public d'Emmaüs, c'est en gros la doctrine de Darby, hein, avec quelques menus différents. Si vous prenez par exemple le Cossec, le retour de Jésus, c'est un petit peu ce qu'on trouve aussi chez le Cossec. Là. Par contre, à côté de cela, ce qui a été beaucoup plus problématique chez Darby, c'était cette idée que de la parenthèse de l'Église, que l'Église n'était quelque chose qui, en fait, était un petit peu marginal par rapport au plan de Dieu, et notamment Darius se heurtait à cette division de l'Église qui était scandale, etc. Et Darius a conclu que le temps de l'Église était déjà fini, en fait. Le temps de l'Église était fini, il fallait maintenant que tout le monde sorte des églises établies, des églises historiques, pour rejoindre le petit troupeau des assemblées, justement, d'où le refus d'employer le mot église, qui n'aurait pas de pasteur, qui n'aurait pas de sacerdoce, qui n'aurait rien, mais qui se contentait d'attendre le retour de Jésus. En attendant, évidemment, Darby conduisait ces assemblées-là avec une main de fer. Il était très strict aussi dans le domaine de la sanctification. Il excommuniait avec sans pitié tous ceux qui déviaient en quoi que ce soit, notamment sur le plan doctrinal. Il était très très strict à ce niveau-là. Si quelqu'un ne pensait pas comme lui, il excommuniait sur le champ. Et en même temps, il était interdit à ceux qui avaient été excommuniés, plutôt à ceux qui étaient restés en église, d'avoir des contacts avec celui-là, y compris avec lui. Il excommuniait ensuite des églises entières. À la fin de sa vie, à la limite, s'il avait encore vécu quelques années plus, eh bien, il aurait été tout seul, tous les autres auraient été excommuniés. Il aurait été l'église à lui tout seul. Évidemment, je caricature un peu, mais enfin, c'est sûr qu'il avait cette tendance. Si bien que un certain nombre de frères, comme on les appelait, se sont révoltés contre cette manière un peu excessive de procéder, et ils ont créé ce qu'on appelle les frères larges, par opposition aux darbistes stricts, de stricte obédience, qu'on appelait, à cause de cette raison-là, les frères étroits. Alors, actuellement, les frères larges, ou assemblées évangéliques, comme on les appelle officiellement, représentent 160 assemblées en France, donc ce n'est pas négligeable. Les darbistes, les frères étroits, sont au moindre, il y a une quarantaine d'assemblées, je crois, en France, quelque chose comme ça. Alors maintenant, quelques autres petites églises, très rapidement. Les Nazaréens. Bon, les Nazaréens, c'est un mouvement qui est apparu en 1845 en Alsace, qui est en fait un mouvement baptiste. Ils ont en Alsace quelques lieux de culte, ils sont un petit peu plus nombreux dans les pays anglo-saxons. Ensuite, il y a ce que l'on appelle les églises évangéliques. Les églises évangéliques, on les trouve en Alsace et quelques-unes dans le Lot. Ce sont des églises de type réformé qui ont été marquées par le réveil piétiste du 19e siècle et qui ont gardé une autonomie à partir de ce moment-là où elles ont été plus ou moins amenées à se séparer de l'église réformée à cause justement de ce piétisme qu'elles professaient. Elles forment jusqu'à nos jours l'union des églises évangéliques qui représente 20 lieux de culte, donc essentiellement en Alsace et dans le Lot. Ensuite, on trouve l'action biblique. L'action biblique, c'est c'est un mouvement qui n'est pas véritablement une église, mais qui a été lancé par un certain Alexandère. Alexandère avait été au départ influencé par le réveil du pays de Galles en 1905, et il avait fait des expériences de type charismatique. Il avait donc prêché le réveil charismatique en Suisse, où il se trouvait essentiellement, et puis, à la suite d'un certain nombre d'excès qu'il avait constatés dans le domaine de l'exercice des charismes, il est devenu violemment anticharismatique et il a considéré que son devoir, c'était de combattre le pentecôtisme partout où il pouvait le faire. Et pour cela, il a créé des maisons de la Bible, dont le but essentiel était de diffuser la Bible, et ainsi, il pensait qu'en diffusant la Bible, il dénoncerait les erreurs du pentecôtisme et ramènerait les chrétiens dans une vue plus saine des choses. Et jusqu'à aujourd'hui, les maisons de la Bible font un travail tout à fait intéressant, d'ailleurs, sur le plan de la diffusion de la Bible. Elles sont un peu perdues de leur virulence anticharismatique, bien qu'elles restent encore très violemment opposées à toutes les choses de l'esprit. Ensuite, on trouve les Quakers. Les Quakers, c'est un mouvement qui est né au 19e siècle en Angleterre, sous l'influence d'un homme qui s'appelait George Fox, qui avait fait des expériences avec Dieu. Comment ?
17e.
Et George Fox avait été saisi par l'esprit, s'était mis à trembler. Et il prêchait qu'il y avait trois dispensations, en quelque sorte, dans l'Église. Il y avait les églises catholiques, l'Église catholique qui était une Église très autoritaire. Il y avait les églises protestantes qui avaient pour base la Bible, et puis il y avait ensuite le mouvement Quaker qui lui avait pour ligne de conduite ni l'Église ni la Bible, mais le Saint-Esprit. Alors évidemment, opposer la Bible au Saint-Esprit, c'était quelque chose de tout à fait discutable, et c'est pourquoi il n'y avait non plus ni pasteur, ni direction, ni enseignement, ni quoi que ce soit. Les cultes se passaient dans le silence, la prière était totalement silencieuse, et chacun se laissait saisir par l'esprit. Alors, les assemblées de Quakers étaient des endroits où des gens s'étaient tremblés pendant tout le long de la réunion, pas, d'où le nom de Quakers qui leur a été donné, to quake en anglais signifiant trembler, des trembleurs littéralement. Pas. Alors, ce sont des gens qui n'écoutent que leur conscience, n'est-ce pas? Le Seigneur part par son esprit à leur conscience. Et alors, finalement, il y a une très grande diversité de foi, de dogmes, de pratiquement pas de confession de foi chez eux, chacun croit un petit peu n'importe quoi, et un certain subjectivisme, évidemment, qu'on ne peut pas accepter à ce niveau-là. À côté de cela, il y a une œuvre très belle au niveau social, beaucoup sont très engagés dans, les, dans tout ce qui est social. Alors, très rapidement aussi, maintenant, parlons des Mennonites. Pardon, je me suis trompé. Les Baptistes ont 128 assemblées quand même en France, ça n'est pas 40. 128 assemblées. Les Mennonites. Pardon ? Les frères des Trois, oui. Hein. Les Mennonites sont issus d'un mouvement qui est né au XVIe siècle, sous l'influence de Menno Simon, qui était un ancien prêtre qui avait quitté l'Église catholique. Et qui étaient les héritiers des anabaptistes. Les anabaptistes étaient des gens, donc, on veut le voir en histoire de l'Église, qui, bien avant Luther, déjà, avaient connu des réveils. Les réveils dans l'Église n'ont pas avant eu la réforme, en fait. Et c'était des gens qui étaient revenus à l'autorité de la parole de Dieu, ils étaient plus ou moins en relation aussi avec les Vaudois. Et cela les avait amenés à redécouvrir la nécessité du baptême des adultes. Ils professaient que ne sont que. Ne peuvent être membres d'église que ceux qui ont